Salil FM Matin, le journal.
Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Betsali Matin, l'édition du journal du 7h, le sommaire. Les écoliers de Bopa souffrant d'affections oculaires peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Ils ont été consultés ce lundi et auront des verres médicaux. C'est une initiative de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa et de la Fondation BOA. Faire le récapitulatif des 8 ans de gouvernance et des réformes qui ont été entreprises dans le secteur de l'enseignement supérieur, sans oublier le processus de désignation. Les précisions sont dans ce journal. D'autres informations viendront meubler cette édition de journal. Le développement, c'est après cette courte pause. On fait à présent le tour des kiosques avec vous, Angelo Sinon. Angelo Sinon, bonjour.
Charlène Kendiro, bonjour.
On démarre cette une par le journal Le Matinal.
Le Matinal qui titre à sa manchette tentative de coup d'état au Bénin, les prévenus devant le procureur ce jour. Département du Plateau, 48 kg de chanvre indien saisi à Ilara. Affaire générale Faletti, 9 personnes mises en liberté. Secrétariat général de la HAC, Aoudo prend les commandes. Le Paraguay, coup d'état déjoué au Bénin, Boko et Homeki devant le procureur. Dabarou, audience à la Cour constitutionnelle et à la LNB, Dorothée Sosa et Gaston Zosu reçoivent l'UNAMEL Bénin. Le Béninois libéré, Cameroun Samuel Eto'o sanctionné par la FIFA. Justice au-delà des inquiétudes, le procès du 7 octobre, une porte de sortie pour Steve Amoussou s'interroge. Le Béninois libéré, deuxième passation de charge à la HAC, Inès Kobo remplace François Aoudo au poste de SGA. Soutien aux parents d'élèves dans la 16e circonscription électorale littorale, Émile Roundé Ladji lance l'opération de don de kits scolaires aux apprenants. La tribune de la capitale a fait tentative d'empoisonnement en 2012 des contre-vérités de Berthe Kouvi sur Maître Rumbedji. Gracien Laurent Arouamenou fait une mise au point. Mise en œuvre du PROMAC à Cotonou, un projet novateur et salvateur pour la communauté des pêcheurs. Décryptage info. Marché. Les pays de l'UEMOA cherchent 1383 milliards de francs CFA au quatrième trimestre. Projet de restauration et loisirs sur la route des pêches. La date limite de dépôt des dossiers prorogés au 31 octobre 2024. Médias en ligne, la Cour constitutionnelle dialogue avec l'UNAMEL sur les enjeux médiatiques. Matin libre, après plusieurs congédiements et brouilles, que reste-t-il encore de la galaxie Talon s'interroge. Matin libre. Inondation en Afrique de l'Ouest et du Centre, des chiffres glaçants qui interpellent. L'affiche du jour, compassion à Boni Yayi dans l'affaire tentative d'empoisonnement. Maître Adrien Rumbedji n'a jamais mené une telle démarche. Lire les déclarations de Gracien Laurent Arouamenou à Berthe Kouvi. Institution de la régulation des médias au Bénin, François Ahoudo, nouveau secrétaire général de la HAC. Et nous allons terminer par cette information à retrouver dans les colonnes de l'affiche du jour. Affaire Bokor Omeki, le parti Les Démocrates de Boni Yayi, un spectateur joyeux s'interroge. L'affiche du jour à vous, Charlène Kendiro.
Toute l'info locale du Monokoufo sur Betsalil FM.
Et je l'annonçais en titre, l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa-Udab et la Fondation Béoua en guerre contre les problèmes visuels en milieu scolaire. En témoigne la présence des responsables de ces deux partenaires ce lundi 30 septembre à l'école UBN Centre de Bopa. Une des centres qui vise à consulter et examiner les apprenants traînant d'éventuels problèmes d'yeux. Cet état de choses pourrait impacter négativement leur cursus scolaire. À travers cette action, l'UDAB et la Fondation BOA donnent ainsi la chance à tous les apprenants de cette école d'étudier sans grande difficulté. Suivez le point de cette activité. Permettre à tous les apprenants de l'école urbaine centre de Bopa de poursuivre leur cursus scolaire sans anicroche, c'est dans cette perspective que l'UDAB et la Fondation BOA ont décidé de faire des consultations ophtalmologiques aux élèves du dit centre. De cette consultation foraine, il en ressort que plusieurs enfants traînent des maladies. Cet état de choses pourrait impacter négativement leur cursus scolaire. Isidore Ginou, président du bureau de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa.
Dans notre arrondissement, nous voudrions que les enfants apprennent dans de bonnes conditions, d'où la réflexion des locaux. Et il faudrait que les enfants soient sains, qu'ils essaient quand même d'avoir une vue nette pour pouvoir apprendre, examiner les enfants pour voir les malvoyants, essayer de leur faire des lunettes. Donc les enfants dont les parents ne sont pas nantis pour pouvoir leur confectionner des lunettes, la BOA se charge de confectionner toutes ces lunettes-là. Après le diagnostic, les enfants qui sont vraiment dans le besoin de lunettes seront pourvus.
Cette opération spéciale a permis de consulter, d'examiner, de diagnostiquer des apprenants afin de trouver des solutions idoines à ceux qui traînent d'éventuels problèmes d'yeux. Venu du Maroc spécialement pour ses enfants, l'ophtalmologue n'a pas manqué de clarifier le bien fondé de cette activité. Docteur Elal Bouzid, ophtalmologue.
Un enfant du rural, assis sur un banc, s'il ne voit pas bien, il ne peut pas aller loin. L'enseignant, il a 50 ou 60 élèves devant lui, il est absolument impensable et impossible qu'il puisse mesurer la vision de chacun. L'enfant va avoir de mauvaises notes, et en ayant de mauvaises notes, à la fin, il va abandonner ses études. On va leur faire une réfraction. Une réfraction, c'est avec un appareil automatique. On prend la mesure de la puissance, s'ils avaient une pathologie, la puissance des verres. On fait, à ce moment-là, une mesure subjective. Surtout chez les enfants, parce qu'ils ont un pouvoir accommodatif qui est très fort. Ils peuvent très rapidement corriger, d'une certaine manière, une myopie ou une hypermétropie, même sans lunettes, jusqu'à un certain degré. Mais cette myopie ou cette hypermétropie, si on la corrige pas assez tôt, ça va se dégrader progressivement et cette capacité accommodative qu'ils ont, elle va disparaître. Et à ce moment-là, l'enfant, il devient vraiment un handicapé. Alors donc, l'objectif, c'est de leur donner des lunettes pour voir à égalité avec les autres enfants. On s'assure comme quoi c'est la dernière qualité de verre, la meilleure qualité de verre optique, mais en même temps incassable.
Notons que cette expérience pourra donc permettre en ce début d'année de corriger l'acuité visuelle des élèves en difficulté. La rentrée académique 2024-2025 a effectivement démarré le 16 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du Mono, les apprenants ont aussi repris les chemins des classes. C'est dans ce cadre que l'émission Sans Tabou de ce samedi 28 septembre a reçu Augustin Yenou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono, sur le thème rentrée académique 2024-2025, mieux comprendre les dispositions pratiques pour un meilleur rendement scolaire dans le département du Mono. Le DDM Mono a confirmé l'effectivité de la rentrée dans les 6 communes du département du Mono. Augustin Yenou, DDM Mono, qu'on écoute.
Nous avons effectué la rentrée scolaire conformément au calendrier scolaire qui stipule que les enfants doivent reprendre les classes le lundi 16 septembre 2024. En la matière, les dispositions sont prises et suivant nos coutumes, nous avons fait le lancement officiel de la rentrée au complexe scolaire de Bopa Centre. Suite à ça, nous avons poursuivi notre tournée dans les autres communes du département pour constater comment l'école a ouvert ses classes. Et je peux vous dire qu'à ce jour, toutes les classes ont ouvert pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Nous avons parlé à chaque acteur, notamment les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves, les élus locaux, les élus communaux, Nous avons demandé aux enseignants de se donner à la tâche de respecter leur cahier des charges pour que nous ne soyons pas nécessairement derrière eux afin de trouver un bon rendement. Nous avons demandé aux apprenants de suivre les apprentissages tels que cela se doit et d'être disponibles aux conseils et aux activités que les enseignants sont en train de mener avec eux. Nous avons demandé aux parents de vraiment faire le suivi des enfants, notamment en matière de ponctualité, de régularité et d'assiduité. Il doit suivre comment les enfants traitent même les exercices à la maison.
Plusieurs dispositions ont été prises par les acteurs de l'éducation avant la rentrée. Il s'agit entre autres de la réunion des instituteurs, conseils pédagogiques pour mettre en place une feuille de route de la rentrée, suivie de la journée de réflexion des enseignants pour un bon encadrement des écoliers à la reprise des classes et le déploiement des enseignants pour régler le problème des manques d'enseignants dans les classes. Après toutes ces dispositions, les autorités pensent mieux s'organiser pour plus de réussite. Augustin Yenoudé Demono.
Cette année, nous envisageons atteindre au moins 95% au CEP. Et en la matière, les visites de classe, les inspections de classe, formation groupée, les conférences pédagogiques seront multipliées à l'intention des enseignants pour les outiller à mieux encadrer les candidats surtout. Et des TD seront organisés à l'intention des candidats et nous sommes déjà en contact avec ceux qui nous appuient souvent pour aider les candidats à être dans la routine. D'ici mars déjà, ces TD vont commencer pour mieux outiller les candidats à faire face aux différentes épreuves du CEP. Ceci accompagné du suivi des parents pourrait nous permettre d'atteindre le bout du tunnel. Les parents doivent savoir que quand les enfants quittent la maison, ils sont allés vraiment à l'école. Et quand les enfants reviennent, qu'on leur fasse un accompagnement qu'il faut. Que les conseils communaux nous appuient en matière d'organisation des TD et des examens blancs à l'intention des candidats. Les communes qui l'ont déroulé cette année 2024 ont eu les résultats en même temps. Et nous exhortons les autres à nous accompagner dans ce sens. Et à accompagner aussi la cantine scolaire lorsqu'on remarque que dans certaines écoles, il y a vraiment des enfants démunis, que la commune vienne en appui pour aider tous nos enfants à manger à l'école et assurer l'enseignement qu'il faut.
Éducation à présent, l'enseignement supérieur est l'un des secteurs fortement impactés par la gouvernance Talon 8 ans. De 2016 à nos jours, plusieurs réformes ont été entreprises et implantées afin de moderniser le processus de désignation des hauts responsables des universités publiques au Bénin. Cette mesure est prise après une longue analyse du fonctionnement des universités. Éléonore Yaela Descamps, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, revient ici sur le diagnostic fait par l'État et le processus de désignation.
Au fait, c'est parti d'un séminaire ministériel présidé par le chef de l'État. Parce que ce qui se passait tel que je l'ai décrit tantôt était ahurissant. Et il fallait se rassurer de ce que les responsables des universités ont la bonne compréhension de leurs responsabilités, de leurs missions. C'est ce qui a permis donc de mettre d'abord en place le CIEDE, et qui est l'organe de régulation qui permet de donner à chaque entité la bonne compréhension de ce qu'elle doit faire et de faire en sorte que ses actions ne paralysent pas des autres maillons. Et après cela, c'est la désignation, la mise en place des conseils d'administration. Ça aussi, c'est les nouveaux organes au niveau de nos universités. Ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est avec le gouvernement de la rupture que les premiers conseils d'administration des universités ont été institués. Et ce sont ces conseils d'administration qui ont procédé donc à tout le processus de désignation des hauts responsables. Alors, ces hauts responsables sont désignés sur la base d'un appel à candidature. Ce n'est pas effectivement, si vous avez dit polémique, c'est parce que tout le temps, dans le milieu universitaire, ce qui caractérise ce milieu, c'est la désignation par les élections. Oui. Mais on sait, moi-même, je viens de même système, on sait que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Et dans tous les cas, on ne peut aller vers un bon système éducatif et de meilleurs produits qui sortent de ce système que sur la base d'une bonne responsabilité des acteurs. Et donc, ceux-là qui, pour la première fois, ont déposé un dossier d'appel à candidature. Ils ont participé à cela. Ils ont exprimé leur vision. comment ils comprennent la vision de développement de l'université, comment ils entendent assurer le fonctionnement des universités. La gestion budgétaire, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. De connaître les rouages vraiment de maîtrise d'un budget, les équilibres, etc. Et en même temps, de s'assurer de ce que les organes au niveau des entités fonctionnent très très bien, que les évaluations se passeront vraiment dans les délais et que les actes administratifs qui sanctionnent ces évaluations seront également délivrés dans les délais. C'est tout ça qui rentre dans l'évaluation. Dès lors qu'ils savent qu'ils seront évalués et qu'ils sont dans un système perpétuel d'évaluation, évidemment, convenez avec moi que les comportements puissent changer.
Dans un autre registre, 6 personnes impliquées dans une affaire de trafic de stupéfiants ont été arrêtées par la police à Cotonou les 23 et 24 septembre 2024. 5 d'entre elles sont placées sous mandat de dépôt après la présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIES le 27 septembre dernier. La police a retrouvé d'importantes quantités de drogue, d'héroïne et de cannabis en leur possession. La 6e personne dans le dossier est mise sous convocation. D'autres complices sont actuellement recherchés par la police.
Le journal, la page des sports.
On fait à présent le tour des sports avec...
Belle entame de compétition pour les Guépas maracaniers en terre ivoirienne. La sélection du Bénin a réussi son entrée dans cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana en dominant bien sûr la Jamaïque 2-1. À la fin de cette rencontre, le coach du Bénin et le capitaine n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Ils tentent ici de donner la clé de ce succès et se montrent déjà confiants pour la suite de la compétition. Écoutons Fleury Dansou et Christian Cotoni, respectivement coach et capitaine.
On peut déjà se frotter les mains. Ce n'est jamais évident un premier match à une Coupe du Monde. La toute première d'ailleurs. Donc, on ne peut que se frotter les mains. Nous avons toujours joué avec nos fondamentaux, nos vertus, c'est-à-dire d'abord l'humilité, la rigueur et la solidarité. Donc, quand tous ces ingrédients et ajouter à la discipline tactique, sans rendez-vous, il n'y a pas moyen de nous gagner.
Forcément, un sentiment de joie. Et ce qui a fait qu'on a pu gagner ce match, je pense que c'est de pouvoir scorer en premier. Parce que dans tout match, quand vous arrivez à marquer en premier, vous êtes boosté. Hein. Il y a une certaine confiance qui s'installe. Vous avez vu qu'on a marqué le premier but. Ça a fait que les Jamaïcains ont été tout de suite dans le dur. Hein. Et après, on a mis le deuxième. Avant qu'ils ne commencent pas à se retrouver, hein, on était déjà à l'approche de la fin du match. Donc vous avez vu, ils ont quand même pu réduire. Ils étaient vraiment, vraiment menaçants dans la troisième partie. Donc je pense qu'il faut bien commencer le match. Il faut marquer en premier. Et après, ça va.
Il faut préciser que la Coupe du Monde de Maracana a bien débuté le 27 septembre dernier et prendra bien sûr fin le 7 octobre 2024 en terre ivoirienne. 16 nations sont sur la ligne de départ et le Bénin est bien logé dans la poule B. Il livrera bien sûr son second match dans cette compétition dans la journée d'aujourd'hui face bien sûr à la Guinée-Conakry. Et puis l'édition 2024 de la Supercoupe de la CAF a livré bien sûr son verdict. C'était bien sûr dans la soirée du dimanche 29 septembre que cette rencontre qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions CAF à celui de la Coupe de la Confédération a eu lieu en Arabie Saoudite. En effet, Al Ahly, grand dominateur de la Ligue des Champions africaine avec 4 titres glanés sur les 5 dernières années, était bien sûr face à Zamalek pour un duel épique qui a bien tenu toutes ses promesses. Après un nul de 1-1 enregistré lors du temps réglementaire, c'est bien la séance fatidique des tirs au but qui a départagé les deux formations et le nom du vainqueur est dévoilé. Et c'est bien le club Zamalek qui a été plus adroit dans ce domaine en transformant bien sûr 4 tirs contre 3 pour Al Ahly. Grâce à ce succès, Zamalek remporte ainsi sa 5e coupe de la CAF et se rapproche du record détenu par son adversaire du jour. Al Ahly a donc glané 8 titres dans l'histoire de cette compétition africaine.
Ainsi se referme cette édition matinale que nous vous remercions d'avoir suivi. Louis Bassan, la partie technique et Charlene Kendiro, la présentation. Merci de toujours nous préférer. Excellente journée et bon début de mois à tous en compagnie de Betsani FM.
Betsalel FM, la voix du mono.